Rapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages.
Salut, salut! Vous êtes en direct de Carapatage sur Radio Libertaire 89.4 FM. Alors, dans le studio ce soir, on est quelques-uns, quelques-unes. Moi, c'est Gomme et je vais laisser les autres se présenter.
Salut, moi, c'est Pile.
Bonsoir, moi c'est Avril.
Salut, c'est Henri à la technique.
Alors, je vais rappeler un peu les moyens pour nous contacter et pour nous suivre. Du coup, on a un blog pour réécouter toutes nos émissions et trouver des ressources qu'on cite pendant les émissions, etc. Donc, c'est carapatage.noblogs.org. On est joignable par téléphone pendant tout le temps du direct. Donc, on est à l'antenne jusqu'à 22h environ. Donc, vous pouvez nous joindre au 01 43 71 89 40. Et c'est Henri qui décrochera à la technique. On est aussi joignable par la poste. Donc, l'adresse, c'est Carapatage au 3 Villa Stendhal, S-T-E-N-D-H-A-L, 75 020 Paris. Ou bien par mail à carapatage@riseup.net. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @carapatage. Ce soir, on va parler de ce que ça veut dire de passer l'été en prison. Alors désolé, c'est plus tellement d'actualité, mais on devait faire ce sujet il y a 2 semaines et on a eu des petits problèmes avec le Covid, de manière originale. Et donc voilà, on fait ce sujet ce soir, c'est plus trop d'actualité, mais bon, la canicule, malheureusement, il semblerait qu'il y en aura d'autres. Et donc, c'est toujours intéressant quand même de raconter ce qui s'est passé cet été et ce que ça veut dire de manière générale de subir des canicules quand on est enfermé entre quatre murs. Avant ça, on fera, comme d'habitude, les brèves d'actualité. Et à la fin, Henri nous fera une chronique sur la criminalisation des fausses couches aux États-Unis. Et voilà, on va partir tout de suite sur les brèves d'actualité. Et c'est moi qui commence avec une petite actualisation sur ce qui se passe en Russie. Donc, on avait fait un long sujet sur la guerre en Ukraine et les prisons dans le cadre de la guerre en Ukraine le mois dernier. Lors de notre dernier direct, on avait parlé à cette occasion, on avait évoqué une annonce qu'avait faite Poutine le matin même. Du coup, c'était le 21 septembre. Il avait annoncé la mobilisation partielle, c'est-à-dire la mobilisation de 300 000 réservistes russes. Suite à ça, dans 38 villes, le jour même, il y a eu des manifestations. Ce jour-là, il y a eu 1400 personnes arrêtées. Et le samedi qui a suivi, donc c'était le samedi 24 septembre, il y a eu aussi des tentatives de manifestation dans plusieurs villes où les flics étaient présents avant les débuts des manifestations et ont empêché que ça puisse se faire en arrêtant les gens au préalable. Et du coup, dans ce cas-là, il y aurait eu 700 arrestations. On n'est pas, enfin, c'est jamais très sûr d'avoir des chiffres exacts hein, vu la situation, mais ça donne une idée. Et à ce moment-là, Poutine a aussi annoncé le durcissement des mesures contre les personnes qui refuseraient la mobilisation. Dans l'émission précédente, on avait parlé de 3 ans de prison. C'était une loi qui venait juste d'être pondue juste avant la déclaration de la mobilisation partielle. Une loi qui prévoyait 3 ans de prison pour les personnes qui refuseraient de se rendre à l'armée alors qu'ils rentrent dans les critères. Et donc, le 24 septembre, suite aux manifs, Poutine a annoncé que finalement, ça passait à 10 ans de prison prévus pour ces personnes. Et la même peine, il a annoncé aussi la même peine pour les soldats qui se rendraient volontairement, entre guillemets, aux Ukrainiens, à l'armée ukrainienne. Et il a aussi annoncé qu'il allait faciliter l'accès à la nationalité russe pour des étrangers qui s'enrôleraient volontairement dans l'armée. Et donc, pour finir sur les arrestations, au 26 septembre, il y avait 2377 manifestants arrêtés, il y avait ce décompte-là, qui auraient été arrêtés depuis le mercredi 21, du coup en 5 jours. En parallèle de ces manifestations, il y a aussi des bâtiments militaires et administratifs qui ont été attaqués, et notamment les bureaux de recrutement qui sont de manière assez... que ça arrive beaucoup, qui sont brûlés au cocktail Molotov dans plusieurs régions. Il y a eu aussi des attaques de locaux du Parti communiste ou du parti de Poutine, dont j'ai pas le nom en tête, et aussi des casernes. Et du coup, vous pourrez retrouver on va mettre un lien sur le blog avec une chronologie de différentes attaques qui ont eu lieu ces dernières semaines. Le dernier truc que je voulais dire sur la situation en Russie, c'est qu'à part ces manifs et ces attaques, il y a aussi une exode de ouf où il y a plein de gens qui se pressent aux frontières des pays riverains pour essayer de fuir la mobilisation. Il y a les lignes aériennes qui sont coupées avec la plupart des pays occidentaux, et du coup les gens sont aux frontières terrestres. Et il y aurait depuis le début de la guerre, du coup depuis février, il y aurait entre 700 000 et 1 million de Russes qui auraient fui le pays. Et depuis l'appel à mobilisation du coup du 21 septembre, il serait 260 000 à être partis. Il y en a 53 000 qui seraient arrivés en Géorgie dans la semaine, juste dans la semaine qui a suivi l'annonce de la mobilisation. Et sinon, les autres pays où il y a des Russes qui arrivent, il y a le Kazakhstan, qui est plutôt un lieu de transit, où les gens ne restent pas. Mais du coup, c'est un lieu de transit parce que notamment la carte d'identité russe suffit pour y entrer, ce qui est aussi le cas de l'Arménie, par exemple. Il y a aussi la Turquie, où là, il y a besoin d'un passeport, mais par contre, il n'y a pas besoin de visa, comme c'est le cas aussi en Serbie. Et pour finir sur les chiffres, il y aurait 66 000 Russes qui seraient entrés dans l'Union européenne depuis l'annonce de la mobilisation, en passant notamment par la Finlande et par l'Estonie, qui sont en train de fermer leurs frontières et pour empêcher que les Russes passent. Et du coup, ils s'attendent à ce que les gens traversent clandestinement. Et enfin, du coup, ils les mettent des conditions de passage de frontières qui vont être plus dangereuses pour les gens, enfin, comme c'est le cas déjà pour plein de gens qui essayent de rentrer dans l'Union européenne. Pour la mise à jour une petite mise à jour sur la situation en Russie. Et maintenant, c'est Avril qui va nous parler d'une révolte. Cette fois, on part en Iran, où c'est bien le bordel. Et du coup, Avril va nous parler d'une révolte qui a eu lieu dans une prison là-bas.
Ouais, c'est pas mal le bordel là-bas. Pour dire un peu, depuis le 16 septembre, après l'assassinat d'une étudiante par la police des mœurs à Téhéran, il y a un gros mouvement social qui a en ce moment en Iran, dans plusieurs grosses villes, et qui est très fort à Téhéran face au régime de Khomeini. Et du coup, face à ces très nombreuses manifestations qui ont lieu dans tout le pays, l'État réprime assez fort, en organisant des contre-manifestations d'une part, en tirant à balles réelles sur les manifestants d'autre part. Il y a eu plein de morts, et en faisant aussi des arrestations massives. Et il y a eu beaucoup de personnes arrêtées dans ce mouvement qui sont enfermées dans la prison d'Evin à Téhéran. Et cette prison, c'est une prison dans laquelle il y a 15 000 personnes qui sont enfermées. C'est aussi une prison un peu historique là-bas. C'est une prison dans laquelle qui vise à enfermer des opposants politiques. Et du coup, il y a une prison au sein de la prison qui est la section 209, dans laquelle pas mal des personnes qui se sont fait arrêter pendant les manifs se trouvent. Et du coup, c'est dans cette prison-là, à Evin, qu'il y a eu un incendie qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc, on ne sait. La version que donne l'État, c'est qu'il y aurait des prisonniers qui auraient mis le feu à des ateliers de travail. Donc, on ne peut pas vraiment savoir d'où vient le truc, quoi qu'il en soit. Il y a eu un gros mouvement de mutinerie au même moment dans cette prison. Et très vite, le feu s'étant répandu sur plusieurs quartiers, ça s'est vu, ça se voyait de loin, et beaucoup de gens sont venus aux alentours de la prison pour soutenir les personnes qui étaient à l'intérieur. Et on, du coup, en criant aussi bien à l'intérieur de la prison qu'en dehors de la prison, « Mort au dictateur », et les gens qui sont venus en soutien ont enflammé des barricades dans les rues alentour de la prison. Ils ont bloqué un peu les voies, ils ont mis un peu le bazar autour. Et voilà, il y a 8 personnes qui sont décédées à l'intérieur de la prison, qui sont décédées après ce truc-là. Et il y a plusieurs dizaines de blessés. Le mouvement est toujours très fort, et je pense que c'est une prison qui est très symbolique pour pas mal d'opposants au régime actuellement.
Mais est-ce qu'on sait du coup s'il y a beaucoup de... Enfin, une grosse partie de la prison a été détruite ou on ne sait pas?
Plusieurs quartiers, okay, de la prison.
On continue avec les brèves internationales, et cette fois on va passer de l'autre côté de l'Atlantique, en Haïti, où le 22 septembre, à la prison pour femmes de Cabaret, du coup c'est en banlieue de Port-au-Prince qui est la capitale du pays, et c'est du coup cette prison, c'est aussi la seule prison pour femmes du pays. Et donc le 22 septembre, il y a eu une évasion massive sur les 230 femmes qui étaient détenues. Il y en a 145 qui ont réussi à se barrer. Donc dans l'après-midi, il y a l'administration pénitentiaire qui a perdu tout contact avec l'établissement et qui dit qu'un des surveillants aurait ouvert le bloc de détention alors qu'à ce moment-là, les matons étaient en sous-nombre et que les détenus en ont profité pour se jeter sur les matons et les maîtriser pour pouvoir s'évader. En parallèle, du coup, il y a des flics, vu que le contact était perdu, il y a des flics d'un poste de contrôle pas loin qui ont voulu intervenir et qui ont essuyé des tirs par des gens qui bloquaient la nationale, qui seraient a priori des gens d'un gang armé. Et ce poste, le poste d'où ils venaient, a été incendié. Et il y a eu des flics blessés et un flic tué dans cette attaque. Et dans la soirée, ils n'avaient toujours pas repris le contrôle de la prison. Concernant les prisonnières, il y en a 3 qui ont été rattrapées sur les 145. Et il y en a une qui est décédée, d'après les autorités, d'une détresse respiratoire liée à de l'asthme. Dans cette prison, et comme dans les autres prisons du territoire, ça fait des mois qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins, et qu'il y a plein de détenus qui meurent. Et en fait, cette situation, elle n'est pas propre aux prisons, parce que en fait, en ce moment, il y a une énorme crise en Haïti. Et depuis le 14 septembre, il y a eu l'annonce par le gouvernement d'une hausse énorme du prix du carburant, ce qui a donné lieu à des manifestations émeutières et des pillages. Et dans ce pays aussi, enfin. Et notamment depuis cette annonce, il y a une forte présence de gangs armés qui contrôleraient apparemment plus de 60% de la capitale, de Port-au-Prince, et surtout notamment des endroits, des infrastructures clés comme le port international ou le principal terminal de carburant justement du pays. Ces gangs armés, du coup, on leur incombe de des violences sexuelles, d'imposer la terreur par des violences sexuelles, et il y aurait 300 morts du fait des gangs armés depuis quand en fait, c'est peut-être préalable au 14 septembre, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de date. En tout cas, en parallèle de ça aussi, il y a une grosse crise alimentaire, il y a une partie de la population qui peut plus, qui n'a pas 3 repas par jour, quoi. Et il y a aussi une épidémie de choléra. Donc il y avait déjà eu une grosse épidémie en 2010 et qui avait duré, je ne sais pas jusqu'à quand, mais longtemps. Et du coup, là, vu qu'il y a un manque d'eau, etc., bah, le choléra est de retour. Et il y a déjà 32 cas confirmés, dont 16 décès qui ont été recensés sur la période du 1er au 9 octobre. Plus 224 cas suspects, et notamment dans la prison civile de Port-au-Prince, qui est la plus grande prison du pays. Cette épidémie de choléra qui commence, c'est ce qui a été notamment mis en avant par le gouvernement pour obtenir un soutien de la communauté internationale, et notamment ce qu'il demande, c'est une force spécialisée armée envoyée par la communauté internationale qui interviendrait sur le territoire. Cette demande, elle a été appuyée par l'ONU, mais pour le moment, c'est pas effectif, quoi. Mais par contre, ce qui est effectif, c'est qu'il y a de l'équipement de maintien de l'ordre qui a été livré par les États-Unis et le Canada le 15 octobre. En tout cas, suite à l'annonce du gouvernement, suite à cette demande d'intervention armée, il y a eu une manif le 10 octobre de milliers de personnes qui manifestaient contre le gouvernement pour sa démission, notamment la démission du Premier ministre, et contre cette ingérence militaire. Et donc, il y a eu des pillages et plusieurs personnes qui ont été blessées par balles par les flics, et une personne qui est décédée d'une balle de flic. Donc il y a des gens qui sortent de prison, il y en a aussi qui rentrent en prison pour les visiter. Et c'est Avril qui va nous parler de ce qui s'est passé en Belgique.
Voilà, une histoire un peu absurde pour changer. En Belgique, il y a 55 magistrats, des juges d'instruction, des procureurs. Ben, ils se sont mis en tête que pour avoir conscience du poids des condamnations qu'ils donnent, fallait qu'ils se les appliquent. Du coup, ils sont en train en ce moment même de faire une expérience carcérale. Ils sont allés s'enfermer volontairement dans la prison de Arènes pendant une semaine, jusqu'à dimanche qui vient là, et en se disant qu'ils vont vivre comme des prisonniers pendant une semaine. Ils vont avoir des parloirs comme des prisonniers, bosser comme des prisonniers, manger comme des prisonniers, s'emmerder comme des prisonniers. Sauf que, eux, ils ont choisi d'y aller. Ils y restent qu'une semaine. Ils font ça dans la prison de Arènes, qui est une prison flambant neuve, qui vient à peine d'ouvrir. Et les matons savent très bien que bah, c'est un peu des collègues. Ah, et puis en plus, si à tout moment ils en ont marre, bah, ils peuvent arrêter. Du coup, ils peuvent toujours se mettre en tête qu'ils ont fait l'expérience de la prison. Moi, j'y crois pas trop.
C'était un week-end, hein, je crois, juste. Un samedi, dimanche, pas une semaine.
Ah non. Moi, j'ai vu une semaine.
Ah, ok. Ok, peut-être.
Non, parce que le week-end, ils sont en week-end.
Et ben, Pil, maintenant, va nous parler de Claudio Lavazza, qui est un anarchiste incarcéré en France. Ouais. Un anarchiste italien qui est incarcéré en France.
Actuellement à la prison de Mont-Marsan, je crois, que si je ne me trompe pas. On en a déjà un tout petit peu parlé dans cette émission. Il a participé aux luttes armées révolutionnaires dans les années 70. Il a organisé des évasions pour ses camarades qui étaient en prison. Il a aussi financé sa lutte en expropriant des banques. Et il est arrêté en 1996 en Espagne après un braquage. Il va faire 25 ans de prison là-bas, dont beaucoup à l'isolement, dans le régime Fies, qui est le régime d'isolement dans l'État espagnol. Et en mai 2021, il est extradé en France et condamné pour un braquage de la Banque de France à Saint-Nazaire, qui avait eu lieu en 1986. Et donc, depuis, il est en prison à Mont-de-Marsan, et selon le droit européen, autour du cumul des peines, il devrait être sorti déjà depuis décembre 2021. Mais l'État français, et malgré les recours qu'il fait, le garde en tôle. Et donc là, il a fait appel, il attend pour octobre une date d'appel pour contrer la décision qui a été rejetée de sa requête de réduction de peine et de confusion de peine, qui devrait aller au max à 25 ans. Et donc, il a écrit une lettre un peu à l'envolée pour détailler un peu sa situation juridique et pour diffuser un petit peu sa situation. Et on mettra en lien sur le blog cette lettre. Force à lui.
Je vais parler maintenant d'une mutinerie qui s'est passée en Italie dans la prison de Terni. C'était dimanche dernier. Il y aurait eu 50 détenus impliqués dans cette mutinerie qui a été déclenchée. Alors, d'après la presse, ça paraît un peu surréaliste. On imagine qu'il y a d'autres problèmes dans cette prison qui ont pu faire monter la tension. Mais en tout cas, ça aurait été déclenché par le refus d'un maton de donner un pot de peinture à un détenu qui voulait repeindre sa cellule. Le détenu s'en est pris au maton et à partir de là, toute la section s'est mutinée. Donc c'est la section H, c'est une des 15 sections de cette prison. Et elle a été complètement détruite dans la mutinerie, notamment par le feu, quoi. Il y a eu des départs d'incendie. Il y a une autre section qui a vu la fumée et qui a commencé à protester aussi. Et voilà, suite à ça, il y a deux matons qui sont à l'hôpital. Et il y a évidemment le syndicat des matons, enfin du coup de la police pénitentiaire, comme ça s'appelle en Italie, qui demande évidemment plus de personnel parce qu'ils sont en sous-effectif, plus de moyens parce que les pauvres, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de taser, et le transfert de toute la section détruite dans d'autres prisons. On passe maintenant à quelques nouvelles de ce qui se passe dans les centres de rétention administrative, les prisons pour étrangers. C'est Pile qui va nous parler de ça.
Alors voilà, ce qui se passe en dehors des centres de rétention, c'est que au ministère de l'Intérieur, on veut en construire plus. Et donc il y a 15 jours, Darmanin a annoncé, en plus de plein de flics à Nantes, la construction d'un nouveau CRA. Face à ça, entre-temps, c'était le 4 octobre, il annonce ça et il y a eu des associations et des syndicats qui ont appelé à une manifestation contre la construction de ce CRA. Donc vendredi dernier, il y a eu environ 300 personnes qui ont manifesté dans les rues de Nantes. Et ce même 14 octobre, ce jour où les gens ont manifesté contre ces prisons, il y a des gens qui ont réussi à en sortir. Il y a des gens qui ont réussi à s'évader du CRA de Oissel. C'est le CRA qui est à côté de Rouen. Et il y a 9 personnes qui se sont évadées, qui a priori n'ont toujours pas été retrouvées. Et comment elles ont fait ? Elles ont cassé a priori un mur autour d'une fenêtre pour en sortir. Bon, on n'a pas plus de détails parce que là, c'est les infos qui sont sorties dans la presse. Mais voilà. Et tout ça. Alors voilà, donc il y a des gens qui ont réussi à s'en évader, mais Darmanin veut toujours construire plus de CRA. Et donc hier, il a annoncé aussi la construction d'un CRA à Perpignan. Et donc il annonce qu'il y aurait à peu près 300 places de plus, et du coup d'ici 2026. En attendant, il y a à Orléans un CRA qui est en cours de construction, un autre qui est prévu vers Bordeaux, mais où il y a toujours une opposition de personnes qui ne veulent pas de CRA dans leur jardin. Mais ceux d'à côté n'en veulent pas non plus dans leur jardin. Donc personne n'en veut dans son jardin. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de CRA, mais il faudrait peut-être un petit peu plus pour que ça n'existe pas. Et il a aussi annoncé ce qu'on savait déjà, mais la rénovation ils appellent ça rénovation du Ménil-Lamelot et aussi de celui de Vincennes. Donc ça veut dire peut-être rajouter aussi des places au CRA de Vincennes. Tout ça aussi, pourquoi ils veulent des nouveaux CRA ? C'est parce que ils ont un peu dit que la rétention devait être prioritairement destinée aux clandestins, auteurs de troubles à l'ordre public. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé cet été avec les affaires à Lyon. Et du coup, encourager à ce que les personnes qui ont des casiers judiciaires soient mis en CRA, mais du coup de développer aussi les assignations à résidence pour expulser les personnes étrangères, donc mettre les personnes avec des casiers en CRA et les autres
en assignation à résidence. Donc étendre, disons, le contrôle à l'extérieur. Et bah voilà, c'était à peu près tout. L'idée, un peu aussi, c'est que sûrement, il va y avoir un projet de loi sur l'immigration qui va venir à l'hiver. Voilà, c'est un peu... ça ira aussi avec cette annonce de plus de places en CRA, quoi.
Sur le truc de que ce soit majoritairement des personnes délinquantes qui se retrouvent dans les CRA, j'ai l'impression que ça répond aussi à un truc, à un débat qu'il y a eu un peu suite à la grosse révolte au Ménil qui était à la fin de l'été, là, où les flics à l'intérieur disaient: ah oui, mais en fait on n'est pas c'est majoritairement maintenant des gens qui sortent de prison qui sont dans les CRA, et puis nous on n'est pas prêt à recevoir cette population là qui est plus violente machin, et parce que ben le CRA c'est pas la prison, et du coup j'imagine ça irait avec une tendance à durcir encore plus le côté sécuritaire dans les CRA. Sachant qu'ils disent que ce n'est pas des prisons, mais enfin, c'est déjà ultra sécuritaire et ça ressemble déjà complètement à de la détention classique, quoi. Mais du coup, ça serait aussi une excuse. Enfin, si finalement, il n'y a plus que les méchants et méchantes qui sont dans les CRA, ben, tout le truc de l'opinion publique, de dire bah, quand même, les gens, ils sont dans des prisons alors qu'ils n'ont rien fait, c'est juste des histoires de papier et du coup, ce n'est pas cool. Ben, en fait, finalement, si les CRA, c'est majoritairement pour des personnes qui sortent de prison, sachant qu'on rappelle que les gens sortent de prison parce qu'ils ont commis des délits pendant leur rétention en général, quoi. Enfin, quand même, majoritairement, si les gens sortent de prison, c'est parce qu'ils ont fait des refus de test, etc. Des entraves à leur éloignement, c'est-à-dire à leur expulsion, et du coup, ils se retrouvent en prison, puis après, ils reviennent au CRA. Enfin, bref. Mais voilà, du coup, en tout cas, il n'y aura plus cette espèce de garde-fou. Droit de l'homiste, de bah ouais, les gens ils sont en prison alors qu'ils n'ont rien fait, vu que ce sera que des gens qui ont fait quelque chose, entre guillemets, vu qu'ils ont un parcours délinquant, un casier judiciaire, un machin. On passe, alors, du coup, on parlait de construction de centres de rétention, mais il y a aussi, on le répète, on en a déjà beaucoup parlé ici, des prisons, des maisons d'arrêt, des centres de détention qui sont en train de se construire. Et là, on part à Muret, du coup, c'est aux environs de Toulouse. Il y a une prison de, je ne sais plus, 700 places, je crois, qui est prévue d'être construite, donc sachant qu'à Muret, il y a déjà un centre de détention qui existe. Et il y a une première enquête publique qui a donné lieu à la déclaration d'utilité publique du projet de construction de cette prison. Mais malgré le fait que l'enquête n'était pas concluante, du coup, ils ont quand même déclaré l'utilité publique. Mais là, ils font quand même une deuxième enquête pour bien valider démocratiquement ce projet qui certainement va se faire, quel que soit le résultat. Mais du coup, il y a des personnes qui ont conscience de ça, qui sont venues perturber une réunion publique dans le cadre de cette deuxième enquête. C'était le 3 octobre. Et du coup, il y a une dizaine de personnes qui sont rendues à cette réunion qui se tenait dans un lycée, il me semble, qui ont crié des slogans pour empêcher les intervenants de parler. Ils ont distribué un tract et ils ont finalement été évacués par les flics. Et on vous mettra un lien sur le blog avec le tract et un récit plus précis de ce qui s'est passé de cette action.
Et moi, je voulais un petit agenda. Voilà, bon, c'est pas la porte à côté, mais le 4, 5 et 6 novembre, il y a 3 jours de rencontres et de réflexions autour des idées de punition, de répression et d'enfermement à Carpentras, Entraigues et Avignon. Alors, pourquoi là-bas ? Parce que ils veulent construire une prison à Entraigues. Et il y a déjà une opposition sur place. Voilà, il y a déjà eu des différentes rencontres, une manif, voilà, on en a déjà parlé un petit peu dans cette émission. Il y a plusieurs propositions pour ce week-end, des ateliers, aller sur le terrain, je sais plus. Voilà, il faudrait y aller, mais en tout cas, pour le voir, c'est pas forcément tout le monde qui peut se déplacer là-bas, mais si des gens nous écoutent depuis là-bas, et puis ça peut aussi inspirer ici...
Voilà, ce genre de rencontre. Si on a envie de plus d'infos ou les contacter, c'est possible. Ils ont un mail qui s'appelle nibetonnimaton@riseup.net. Ni béton, ni maton au singulier. Mais ça aussi, on pourrait peut-être le mettre sur le blog. Et voilà, je pense qu'ils ont envie de parler de construction de nouvelles prisons, mais aussi de parler un peu que la prison, c'est pas juste quatre murs. Voilà, c'est aussi pour eux l'aboutissement d'une société de contrôle généralisée où caméras et policiers quadrillent ville et campagne. C'est la menace au-dessus de chaque tête. Et ils ont une petite phrase à la fin de leur texte d'appel qu'ils ont été diffés devant plusieurs prisons dans la région, qui dit « Construire des prisons pour lutter contre la délinquance, c'est comme construire des cimetières pour contrer une épidémie. » Voilà. Et ben voilà, si, on vous fera peut-être un peu un retour, s'il y a un retour un peu public de ce week-end, dans une autre émission.
Et on a fini avec les brèves d'actualité, il y en avait beaucoup, désolé. Et on va écouter un peu de musique.
Yeah, yeah. SPL. Bienvenue en France, 145 invités dans le game, mais... Venu en France, immigré sans papier, toujours pas de considération, il a fallu que je bouge pour pouvoir porter mes couilles, comme toute une génération. Sur mon parcours, la galère m'a tiré dessous, des photos dans le désert avec des corps qui suent. Une pensée à mes soldats aventuriers, ne nous parle plus de la misère, on l'a trop connu. À la barre, quand tu te défends par tes propres moyens, tu peux compter que sur quelques soutiens. Parce qu'à l'arrivée, les guerriers deviennent migrants, il n'est pas accueilli très chargement. Chercher garder des territoires, les gens pensent mieux savoir sur toi les raisons de ton départ. C'est pourtant le hasard qui fait qu'on exclut ce continent. Alors pose-toi des questions avant de nous balancer tes discours des dénigrants. Tous des dénigrants, dénigrants. Mets-toi à ma place, mets-toi à ma place. Je cherchais, j'ai tant fait pour pouvoir m'accrocher. Ingrid est venu par la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est en héros. Mets-toi à ma place. Je cherchais, j'ai taffé pour pouvoir m'accrocher. Ingrid est venu par la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est en héros. Comme les autres, j'ai fini ma route à dormir au bord des tramways avant de rejoindre un endroit qu'on appelait Amphisée. C'est qu'ils étaient sans souvenir. Donc, ces moments d'histoire à cohésion de l'Amphisée à l'ECG. Solidarité en marche pour vivre dans un monde un peu moins lâche. Auprès de mes frères en squad, je suis l'office de l'Afrique de l'Ouest, celui qui est l'Afrique de l'Est. Yo, alléluia, alléluia. Dieu merci, je viens de la famille Loua. Ma maman m'a dit, il devient pas un putain de riche, mais juste un petit débrouillard. Un homme qui a appris à bouger les lignes, à traverser les frontières, contournant ce que le destin profile. Hey, faut qu'on risque, ils m'ont dit d'aller faire la plonge. Je suis pas né à l'horizon, mais je vis bien dans les louanges. Mets-toi à ma place, mets-toi à ma place. Je cherchais, je t'ai fait pour pouvoir m'accrocher. Ingrid ne venu pas la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est en héros. Mets-toi à ma place. Je cherchais, j'ai taffé pour pouvoir m'accrocher. Ingrid ne venu pas la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est en héros. Sarah Dye. Tout est en héros. Tout est en héros. Ah, ah. Tout est en héros. Tout est en héros. Mets-toi à ma place. Je cherchais, j'ai taffé pour pouvoir m'accrocher. Ingrid est venu par la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est en héros. Mets-toi à ma place, mets-toi à ma place. Je cherchais, j'ai taffé pour pouvoir m'accrocher. Ingrid est venu par la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est en héros.
SP 45, Saga Dai. Big up à tous les guerriers de Lyon.
Tout est en héros.
Laisse-toi.
Mets-toi à ma place. On vient d'écouter « Mets-toi à ma place » de SPL 145. Vous êtes toujours à l'écoute de Carapatage, l'émission contre toutes les cages sur 89.4 FM. Alors, petite correction, contrairement à ce que j'ai dit en début d'émission, notre adresse postale, c'est pas aux 3 Villa Stendhal, c'est aux 4 Villa Stendhal, 75020 Paris. Désolée pour l'erreur. Et vous pouvez toujours nous joindre pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Tout de suite, on va passer à notre thématique du jour, une thématique d'actualité, vu qu'il s'agit de l'été en prison. Et je vais laisser Avril nous introduire un peu le sujet.
Oui, comment introduire ? Là, en ce moment, il fait un peu plus frais, mais cet été, il a fait très chaud. Et il y a eu plusieurs périodes de canicule. Et du coup, c'est compliqué dehors, mais c'est aussi compliqué dedans. Et pour se donner une idée, on peut prendre le ministère de la Justice, ils mettent un exemple de journée type d'un détenu en prison. Et dans leur emploi du temps de cette journée type, le détenu il se lève à 7h et il va travailler, faire des activités le matin jusqu'à midi, puis après il va manger, puis après il retourne travailler ou faire des activités, puis il y a une promenade, puis il retourne dans sa cellule. Dans les faits, en maison d'arrêt, ce qui se passe le plus souvent, c'est plutôt de passer la quasi-totalité de ton temps en cellule, à part le temps de la promenade. Et la promenade, elle a lieu en début d'après-midi, c'est-à-dire au moment où le soleil il est à son zénith, où il fait le plus chaud. Il n'y a pas d'ombre et c'est une fournaise parce que le sol c'est du goudron, les murs c'est du béton et il n'y a pas la moindre ombre pour que les matons puissent faire leur boulot de surveillance. Et dans les cellules, il fait pas beaucoup moins chaud. Et par exemple, en juin à Carcassonne, il pouvait faire jusqu'à 50 degrés dans des cellules qui sont souvent partagées. Et en région parisienne, mais y compris dans plein d'autres endroits, ça pouvait facilement dépasser les 40 degrés dans la cellule, qui ont des fenêtres sans volets, sans rideaux, mais avec des barreaux, des grillages qui renvoie bien la chaleur, un lavabo, mais l'eau qui sort du robinet elle est déjà tiède voire chaude, et en maison d'arrêt il n'est pas possible d'ouvrir la porte, sauf par exemple si tu es en module respect où tu peux avoir des conditions de détention qui sont plus proches des centres de détention que des maisons d'arrêt. On a fait une émission là-dessus, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez la retrouver sur notre blog.
Juste sur les fenêtres qui n'ont pas de volets, pas de rideaux. En plus, souvent, tu n'as pas le droit d'obstruer ta fenêtre. Tu ne peux même pas mettre un drap dessus. Bon, j'espère que, enfin, il y a des tolérances à des endroits et des moments. Et peut-être quand c'est la canicule, ils font moins chier, j'espère. Mais en tout cas, ouais, normalement, tu n'es pas censé avoir le droit de mettre un rideau. Pour une raison assez obscure, d'ailleurs. Ouais, c'est pour qu'ils puissent voir de l'extérieur, mais bon, c'est pas là qui m'attonne, ils ont l'œil tourné de l'autre côté. Bon,
moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que pour les matons, c'est pour que les matons ils puissent voir les barreaux directs et que voir s'il y a un problème flagrant, ils puissent le voir depuis l'œil tourné sans rentrer dans la cellule.
Ouais, sauf que moi, l'exemple que j'ai, c'était à la MAF de Fleury où il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres, par exemple. Mais bon, c'est pas l'intelligence qui les étouffe.
Mais du coup, effectivement, ils sont un poil plus tolérants en temps de canicule là-dessus, et parce que c'est un moyen de débrouille qui est assez présent quoi dans ces moments-là, aussi parce qu'il n'y a pas trop d'autres choix que de prendre un drap ou un t-shirt, l'humidifier. Si t'as à dispo un petit frigo qui fonctionne, le mettre dedans et puis le mettre sur les barreaux pour pouvoir avoir un peu plus d'air frais. Ça, c'est quand t'as les frigos qui fonctionnent, parce qu'à plein de moments, ils fonctionnent pas.
Et
où il n'y en a même pas, comme à Caen, à la maison d'arrêt de Caen, où ils ne peuvent même pas cantiner. Ils ne peuvent pas avoir de frigo et ils doivent cantiner des glacières qui valent 50 euros s'ils veulent avoir un truc pour rafraîchir, enfin tenir au frais. Et du coup, voilà, il y a des endroits où il n'y a même pas. Enfin, et je cite Caen, mais par exemple, il y a plein de prisons où il n'y a pas de frigo non plus et où t'as pas non plus d'alternative. Et par exemple, je parlais de la MAF de Fleury. À la MAF de Fleury, aux dernières nouvelles, t'as pas de frigo et pas de glacière non plus. Et les meufs, elles mettent leur frigo, c'est à la fenêtre, mais du coup, quand il fait 40 degrés dehors, ça ne marche plus, quoi.
Et même dans des endroits où ils disent qu'il y a des frigos que tu peux cantiner, par exemple à Bois d'Arcy, ils ont Bon, ils le justifient par un système électrique défaillant, mais beaucoup de gens ne peuvent juste pas cantiner de frigo, alors même que c'est annoncé comme faisant partie de la cantine. Et du coup, voilà, il y a ça, un truc qui... Il y a ça, et sinon, il y a juste basiquement d'ouvrir le robinet et puis de laisser l'eau ruisseler par terre pour rafraîchir un peu le sol. Même si ça, en vrai, par exemple, c'est un truc où tu peux t'exposer à la répression. C'est pas autorisé du tout. Et c'est au bon vouloir des matons qui l'acceptent en vrai de temps en temps. Mais du coup, s'il y a un truc qui leur plaît pas, c'est un prétexte facile qu'ils ont pour te faire chier. Et du coup, après, ce que ça implique aussi, c'est à plein de niveaux dans la prison. Quand tu taffes, il y a des gens qui témoignaient des ateliers dans lesquels ils taffaient, qui étaient où il n'y avait pas d'accès à l'eau, par exemple, où il n'y avait pas de... Enfin, où c'était sous une tôle qui, pareil, qui irradiait de chaleur, il faisait 60 degrés là-dessous. La bouffe, qui est toujours tiède ou chaude, et il n'y a pas de fruits, pas de légumes, et ça... Et que ça peut faire un peu péter les plombs. Et aussi, sur les promenades, par exemple... À Fresnes, par exemple, là, cette année, les gens étaient interdits de mettre des shorts ou des casquettes. Et c'est des trucs... C'est pas la première année que ça se passe. En 2018, à Tarbes, il y avait eu ça aussi. Et il y avait une dizaine de détenus qui avaient refusé de retourner dans leur cellule pour pouvoir avoir le droit de porter des shorts sous le cagnard dans la cour de promenade. Et... La gestion de ce truc-là par la paix de manière générale, elle est assez... Il y a un plan canicule qui existe depuis 2003 qui, dans les faits, est quasi jamais appliqué, et c'est un peu au bon vouloir des différentes AP, des différents établissements. Et ça donne des trucs... À Corbas, par exemple, il y a un système de climatisation qui existe, mais qui n'est allumé que lors des visites officielles et qui est éteint tout le reste du temps. Et à Poitiers, ce qu'ils ont fait pour... ils ont établi une liste de personnes qui sont considérées comme fragiles. Et pour s'assurer que ces personnes-là ne soient pas décédées, ils passent tous les jours, toutes les nuits, toutes les deux heures, ils allument la lumière et ils demandent aux gens de bouger. Du coup, c'est un moment où rien que dormir, c'est difficile, tellement c'est le cagnard. Et toutes les deux heures, on vient bien s'assurer que tu ne dormes pas.
Que tu n'arrives pas à dormir.
Et voilà. Et du coup, il faut bien s'imaginer que tout ce truc de chaleur, là, il se joue aussi dans un contexte particulier. Il vient renforcer tout un tas de trucs... de la promiscuité que la prison elle amène, l'étroitesse des murs, de tout un tas d'autres conditions d'hygiène qui existent en prison, avec les cafards, les rongeurs qui te rendent déjà la vie infernale de base, et la, la chaleur, elle en rajoute encore une couche. Et tous les pépins de santé qui peuvent arriver, ou les... déjà, de base, c'est difficile de faire confiance au système de santé de la prison. Et là, c'est encore aussi quelque chose que la chaleur, elle creuse, quoi.
Et puis, il y a plein de... C'est pas comme si les conditions, enfin c'est ce que tu dis, comme si les conditions par ailleurs, quand il n'y avait pas de canicule, étaient super. Et par exemple, bah, je sais pas, le truc de la surpopulation, quand les gens ils sont entassés à je sais pas combien, en général à 3 dans des cellules qui sont prévues à la base pour 2 personnes max, voire une personne selon, selon les directives européennes. Enfin, et qu'ils sont et que t'es à 3 là-dedans, bah, c'est pareil en fait, à 3 dans 8 mètres carrés. Ben, le truc de la chaleur, c'est encore pire, quoi. Et puis ça me fait penser aussi au truc d'accès à la douche. Bon, de plus en plus maintenant, les cellules sont équipées de douches, mais il y a encore plein de prisons où c'est pas le cas. Et du coup, en fait, tu... Ou alors, où c'est le cas, mais t'as pas l'eau tout le temps, ou...
Ces prisons-là, justement, t'as... Dans le plan canicule qui est censé être mis en place dans ces périodes-là, normalement, il y a 3 douches maximum par semaine, et le plan canicule, il peut faire que tu as droit à plus de douches. Dans les faits, non. Et tu as droit à, malgré tout, 3 douches de 10 minutes par semaine, pas plus. Du coup, tu as 30 minutes d'une douche tiède encore. Il y a plusieurs témoignages qui disent « Bon, bah, je prends ma douche, l'eau, elle est presque aussi chaude que... »
En plus, ouais, t'as des douches collectives où c'est pas toi qui peux gérer la température non plus, quoi. Du coup, encore faut-il que la direction ait pensé à régler le thermostat sur un truc valable, c'est-à-dire froid, s'il vous plaît. Un autre truc sur les... Tu parlais de la promenade, qui est à des heures chaudes et tout ça, plus en... entouré de béton, et aussi en fait il y a plein de promenades où t'as pas d'accès à l'eau, ou alors des filets d'eau merdiques. Et par exemple, c'est ce que racontaient des gens qui écrivent à l'envolée, qui sont à la maison d'arrêt de Caen, qui ont écrit cet été. Ils disaient qu'il y avait pas d'accès à l'eau dans la promenade, et ils ont pas le droit, et ça c'est aussi le cas je pense dans la plupart des maisons d'arrêt, ils ont pas le droit de descendre de bouteilles d'eau en promenade. Et du coup, une fois que t'es en promenade, bah t'es coincé en promenade, tu peux pas remonter. Et du coup, bah, en fait, si tu te sens mal, si... Enfin bon, bref, si... De base, de toute façon, t'as besoin de boire tout le temps, quoi. D'ailleurs, c'est les recommandations du ministère de la Santé. Pensez à boire régulièrement. Bah là, juste, c'est interdit de boire, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Enfin... Et du coup, en plus, t'es coincé en promenade. Si vraiment tu commences à te sentir mal, tu peux pas juste dire « J'en peux plus, je remonte en cellule, boire un coup. » C'est... Il faut que t'attendes la fin de la promenade. Et je voulais dire un autre truc sur les bon, je l'ai pas entendu cet été, mais il y a eu des étés régulièrement, genre les scandales des piscines gonflables en cellule. Et du coup, je sais pas, je voulais répéter cette anecdote qui est pas si anecdotique, que c'est vraiment arrivé plusieurs fois à différents endroits que que des prisonniers arrivent à se faire rentrer des piscines gonflables et les gonflent en cellule et les remplissent. Et je trouve ça assez joli comme moyen de débrouille survie face à la canicule. Bravo, quoi. Et bravo au soutien à l'extérieur qui a permis ça, j'imagine. C'est tout pour cette introduction. Et du coup, on va écouter un nouveau morceau de musique.
Entre les factures, les rappels, j'ai besoin d'évacuer ma semaine. Couche, creux, clavier à pleine dent, autant de décapsuler ma pierre. Entouré de mes crapules et de ma taille, boum. J'additionne les faux pas, fais le calcul, c'est la merde. Mais je m'en fous, je veux être libre, ne serait-ce qu'une seule fois. Dans ma vie, je serais blindé si je possède elle et une que je dois. Ah, ah.
veux être libre ne serait-ce qu'une seule fois. Dans ma vie je serais blindé si je possède elle et d'une que je dois et ça fait frère. Je fais les choix qui me semblent le bon faire. Si loin de la gloire, si proche de gens de l'ombre, je rêve de vivre en oublier l'essence de son terme. Je veux pas être à terre le jour où les anges s'envoleront. Si loin de la gloire, si proche de gens de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de gens de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de gens de l'ombre. Frère, je veux pas être à terre. J'aperçois moins de blanches colombes que corbeaux noirs. Une pensée pour ceux qui ont tous leurs regrets ou le bruit des verrous comme seul cauchemar. Si proche de champs de long, faut faire les choses bien. Pas qu'à l'entrée du paradis, on nous rétorque, pour vous c'est mort trop tard. Faut qu'on se pose autre part, ou bien qu'on change ce monde, on manque de rond. Ici c'est soit t'es riche, soit t'es un pauvre connard. Si proche de champs de long. Si seulement les clés de la réussite pouvaient ouvrir la cellule de nos potes aux stars. La solitude comme binôme, je reste petit compte merde. Le cœur serré, j'ai pris le chrome. Je rêve de vivre mon rêve, mais elle est loin ma vie de môme. Ça va trop vite, tu passes du diplôme à la peine de prison ferme. Et j'ai pas envie de faire la fête dans le beat que des galettes. J'lève la dernière qui reste à mes galères. Sans qui je serais pas même. Ça soit dans nos choix ou nos embrouilles. On se bloque, we love, c'est la merde. Comprends que j'parle pas de ton groupe de copines quand j'dis que j'veux me faire la belle. Ah. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre. Frère, j'veux pas être à terre. La réalité m'a dit, prends ta gifle, je te l'offre. Y'a qu'en trafic de drogue qu'on fait la part des choses. Moi, je pense que la vie me donne. J'ai trop de choses à évacuer, donc c'était soit l'album, soit la tentative de meurtre. Tu vois, le bail c'est hoche, c'est trop chaud les études. Tu vois, dopo, oh oh. Poto, c'est mort, faut faire des thunes. Pareil que vrai reconnaissent vrai. Ok, tous les grands te respectent, cogno. Mais tes propres parents te reconnaissent même plus, putain. Alléluia, le passé nous noie. Sur le chemin de la liberté, difficile d'aller tout droit. Je m'en bats les couilles, moi. Je suis un artiste, pas un gangster. La tôle, je suis pas fait pour ça. Allez, alléluia. Barrez-vous de ma route, ouais, cassez-vous de là. Quand d'autres prennent le virage de l'illicite, je préfère aller tout droit. Alléluia, allez, alléluia. De l'autre côté du mur, mais j'oublie pas mes rouillas.
Entre les factures, les rappels, j'ai besoin d'évacuer ma semaine. Couche, creux, clavier à pleines dents, le temps de décapsuler ma bière. Entouré de mes crapules et de ma tête, j'additionne les faux pas, fais le calcul, c'est la merde. Mais je m'en fous, je veux être libre, ne serait-ce qu'une seule fois. Dans ma vie, je serais blindé si je possède elle et une que je dois. Je veux être libre, ne serait-ce qu'une seule fois. Dans ma vie, je serais blindé si je possède elle et une que je dois. Et ça fait frère. Je fais les choix qui me semblent le bon faire. Si loin de la gloire, si proche de champs de long, je rêve de vivre en oublier l'essence de son terme. Je veux pas être à terre le jour où les anges s'envoleront. Si loin de la gloire, si proche de champs de long. Si loin de la gloire, si proche de champs de long. Si loin de la gloire, si proche de champs de long. Frère, je veux pas être à terre le jour où les anges s'envoleront.
Rebonsoir, on vient d'écouter De l'autre côté de Gueule Blanche. Vous êtes toujours dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Et je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les internets, sur notre blog carapatage.noblogs.org et sur Instagram @carapatage. On continue notre thématique sur l'été en prison, et c'est Pile qui va nous parler de ce qui s'est passé justement l'été dernier dans des prisons suisses.
Ouais, alors toutes les infos là, je les tire d'un blog et aussi cette chanson qu'on vient d'écouter, d'un blog qui s'appelle parlonsprison.noblogs.org. C'est un collectif, le blog d'un collectif anticarcéral de Genève qui relaie et soutient les luttes à l'intérieur. Dans la perspective d'un monde sans prison. Et donc, dans la prison du canton de Genève, alors il y a un domaine pénitentiaire où il y a deux prisons, la prison de Brenaz, je ne sais pas si je prononce bien, et la prison de Chandolon, qui est la maison d'arrêt. Et donc, voilà, il a fait aussi hyper chaud en Suisse. Et il y a une... en juillet, il y a une dizaine de détenus à la Brenaz qui se sont mis en grève parce que dans les ateliers où la température atteignait 35 degrés, le chef d'atelier a refusé d'ouvrir les fenêtres. Voilà, il s'est dit que c'était pas bienvenu, j'imagine. Et c'est un atelier où les détenus travaillent sur des machines qui font de la chaleur jusqu'à 120 degrés. Donc c'est plutôt voilà, une ambiance assez chaleureuse, entre guillemets, quoi. Et donc, la veille, quand voilà, le chef d'atelier refuse d'ouvrir les fenêtres, ils ont continué à travailler. Et le lendemain, en fait, ils se sont dit que non, qu'ils allaient se mettre en grève. En fait, quand tu te retrouves dans ces ateliers à la Brenaz, et je pense dans d'autres prisons en Suisse, en fait, tu es obligé de travailler. Donc déjà, quand tu hors de, voilà, de ce moment-là, tu peux te retrouver avec des sanctions. Et là, en tout cas, la réponse de l'administration pénitentiaire, ça a été l'isolement dans une cellule pour une semaine. Donc voilà, les prisonniers... donc ça, c'est un petit peu sorti voilà, sur ce blog. Et donc, en fait, dans cette prison, il y a un système de sanctions qui est prévu face au refus de travailler, quoi. Et normalement, c'est l'isolement pour 24 heures. Et un second refus, c'est 48 heures, puis ensuite 2 semaines. Là, ils leur ont carrément mis direct une semaine, peut-être du fait d'un refus collectif. On ne sait pas trop. En tout cas, dans les cellules d'isolement, les fenêtres, souvent, elles sont fermées. Et c'est aussi au bon vouloir du maton de l'ouvrir ou pas. Du coup, elles sont fermées avec un cadenas. Voilà. Et donc, voilà. Et du coup, aussi, à l'autre prison qui est à côté de la prison du Brenaz, là, qui est celle de Chandolon, il y a aussi des prisonniers à l'intérieur qui ont sorti un peu des demandes et des revendications face à leur situation spécifique. Parce que, ça a été évoqué tout à l'heure par Avril, là, les cellules, elles ont des tout petits, aux fenêtres, des tout petits grillages. Et du coup, l'air passe pas du tout, quoi. Et... a priori, il y a genre un gros problème de calcaire avec de l'eau vraiment assez dégueulasse, quoi. Et des frigos minuscules, parce qu'il y a dans cette maison d'arrêt des cellules de normalement 5 personnes, mais où les gens se retrouvent genre à 6, 7, du coup avec des équipements vraiment pas genre adaptés au nombre que les personnes sont à l'intérieur. Et donc les problèmes, les personnes à l'intérieur ont fait un peu sortir le fait que... aussi, elle trouvait que la bouffe n'était pas du tout adaptée, quoi, les trucs que tu disais, mais que du coup, des bouffes genre hyper chaudes, hyper lourdes à digérer, etc., quoi. Et l'impossibilité de conserver d'autres denrées qui seraient cantinées, quoi. Et voilà. Et là, en septembre, le directeur de la tôle est allé dire que, en fait, tout allait bien dans sa prison et tout s'était bien passé. Et du coup, les détenus de la Brenaz, une partie, ont sorti une lettre et une pétition pour dénoncer, donner leur version et dire ce qu'il en était à l'intérieur de la prison, quoi. Voilà, un petit peu ce que j'ai pu trouver de ce qui s'était passé dans cette prison autour de Genève.
Donc on parle des conditions assez hardcore avec la chaleur quand on est enfermé entre 4 murs. Et là, je voulais parler un peu d'aménagements sécuritaires qui sont faits dans certaines prisons par l'administration, qui rendent encore plus insupportable la chaleur et les conditions, notamment quand il fait chaud. On l'avait évoqué dans l'émission du mois dernier, qui avait une construction d'un dôme anti-projection au-dessus d'une cour de promenade à la maison d'arrêt de Périgueux. Et là, je vais vous lire une contribution qui nous arrive de Dordogne, qui parle un peu de ça. En Dordogne, département de plus de 9000 hectares, se trouve un maillage carcéral avec ses structures d'encagement éparpillées sur ce territoire. Périgueux, maison d'arrêt. Neuvic-sur-l'Isle, centre de détention, faisant partie du plan des 3000. Mozac, faisant partie des 2 nouvelles prisons dites prison Badinter, l'autre est en Corse. Montpon-Ménestérol, établissement carcéral psychiatrique Vauclair. Bergerac, centre éducatif fermé, ouvert en 2022. En septembre, à Périgueux, a eu lieu une belle. Expression qui colle parfaitement avec l'exécution et la solidarité entre co-détenus qu'il a fallu pour cette évasion. L'an passé, deux détenus avaient suscité l'admiration d'un côté et la frustration de la matonnerie de l'autre avec une évasion old school, avec traction et drap. La frustration s'est déclinée en revendications fermes. Ces derniers réclamant désormais des séances de sport et du recrutement de tauliers jeunes, vigoureux, dynamiques pour ce genre d'encagés, eux n'ayant pas assez d'exercice physique. Peut-être devraient-ils penser à une pension d'invalidité pour l'arthrose des doigts, avec toutes ces années à manipuler des clés pour enfermer. Encore une revendication apportée auprès des défenseurs des conquis sociaux. Quel vaste combat! La conséquence ici, comme dans d'autres tôles, de la vétusteté de la maison d'arrêt Bellem de Périgueux a été, lors de la période la plus chaude, catastrophique pour les détenus. Cette période se superposant aux mesures anti-Covid qui, pour la plupart, perdurent avec les plexiglas lors des parloirs et des restrictions de temps. Depuis 2020, des travaux sont engagés et multiples entreprises se sont succédées pour une construction d'un dôme anti-projection au-dessus d'une cour de promenade. Quel vacarme tous ces pauvres qui s'agitent sous les fenêtres fleuries et aux géraniums colorés et magnifiquement entretenus. La force collective citoyenne a vaincu par son élan démocratique. Et c'est ainsi que, sous la réjouissance ouverte des voisins rompus dans leur tranquillité quotidienne dans leur chic maison périgourdine, par les bruits réguliers de feux d'artifice, de parloirs sauvages et de sifflements signalant l'arrivée de quelques colis utiles pour l'intérieur, la délivrance ultime, tant attendue pour que les bonnes gens retrouvent leur quiétude, fut érigée le dôme. L'élan de la justice citoyenne, éveillée, démocrate, humaniste, a gratté quelques bribes à ce qu'est devenue cette pauvre France. À l'intérieur, les encagés grondent. Déjà, lors des restrictions Covid, dans deux des prisons, dont celle-ci, les ouvriers qui continuaient à aller et venir à l'intérieur s'étaient pris projectiles et copieuses insultes à chacune de leurs venues. Nous, on n'a rien pour se protéger. On n'a plus de parloir et en plus on laisse rentrer comme ça les gens, alors qu'ils vont nous amener la mort, comme les matons. Lorsque les ouvriers ont débuté leur sale besogne, ça a continué à gronder. Des dispositions pour la restriction de promenade ont dû être mises en place, les engins et les ouvriers étant au milieu de la cour de l'une d'entre elles. La construction du dôme s'est poursuivie pendant 2 années, malgré quelques aléas liés à des problèmes techniques. Les tôlards ont pu inaugurer ce nouvel outil fin de l'été. Et l'inauguration ne fut pas des moindres. Là où certains pouvaient trouver fraîcheur, appui et cadeau divin descendu du ciel, c'est-à-dire près des murs, c'est maintenant un maillage si serré qu'il condense la chaleur, comme si le dôme était un plafond de plexiglas. Toute la crasse matonnerie est bien fière du résultat du travail acharné d'ingénieurs, d'entreprises locales avec le soutien citoyen. Fière et solidaire de l'entrepreneuriat local et international. Un peu comme cette entreprise espagnole, European Security Fencing ou Mora Salazar, 40 ans de dur labeur pour des spécialisations dans la sécurité des lieux publics, militaires, industriels. Avec une spécificité depuis 15 ans, le barbelé numéro 22, à lame pour les frontières européennes. L'extension des sales besognes trouve toujours de la ressource. Mais l'inauguration a aussi pu être saluée de manière beaucoup plus élégante et qui a réjoui plus d'une délinquante de ce monde, laissant dans la crasse tous les grouilleurs encageurs. Car même avec ce dôme, le barbelé de type 22, les portes de cette ruine et sa structure restent du gruyère, comme disait l'autre. Deux belles ont pu se faire. Les occasions ont été saisies. Chez la matonnerie, crève les tôles. Et merci et grand salut à Daoud, maintenant dehors, et tous les autres encagés. Et un gros big up au co-détenu qui s'est fait transférer à la maison d'arrêt d'Angoulême. Et il y a une petite note qui précise, alors ça vous ne l'avez pas entendu quand j'ai lu, qui dit « J'ai mis encagé avec juste ES, car les centres de détention et maisons d'arrêt pour femmes sont à Bordeaux et Angoulême. Il n'y en a aucun en Dordogne, indépendamment de la cage psychiatrique de Montpon-Ménestérol, mais c'est très rare que les femmes y soient emprisonnées. » Jusqu'au XIXe siècle, c'est à Cadillac, en Gironde, près de Bordeaux, qu'il y avait une des plus terribles prisons pour femmes. À Cadillac, toujours, il y a un centre psychiatrique, un des plus vieils hôpitaux de France. Il y a une unité dite UMD, unité pour malades difficiles. Ce sont pour la plupart des personnes qui ont commis des crimes et qui ont été jugées irresponsables. Lorsque les gens y entrent, il n'y a aucune chance d'en sortir. Et ben justement, il y a une lettre qui est sortie de cette UMD de Cadillac, l'unité Moreau de Cadillac qui correspond à l'UMD, l'unité pour malades difficiles. Donc il y a une lettre qui est sortie en août, c'est 18 détenus qui l'ont signée et qui protestaient contre le manque de personnel soignant dans cette unité et les répercussions que ça a sur et leur parcours de soins, mais aussi sur leurs conditions de détention. Ça fait qu'il n'y a pas d'activité, moins d'activité, pas de sortie thérapeutique. Et du coup, ils ont adressé cette lettre à la contrôleuse des lieux de privation de liberté, à l'ARS, au ministère de la Santé, à d'autres structures, d'autres associations et autorités de ce genre. On a fini sur ce bout-là et du coup on va s'écouter un peu de musique avant de reprendre.
Ecco l'aprile, il fiore della vita, l'aria le piena o di savedo. Scorgo lontano tra l'erba che è fiorita due che s'amano, son confusi nell'amor. O degli uccelli amo lo sgorgheggiar là sugli alberi e tra la verdura. Amo coi piedi calpestar quel che produce la natura. Quando scorgo quel sentier che mi conduce dove io bramo, tutti i miei sogni, i miei pensier volano verso colei che io amo. E nell'estate il caldo è soffocante, nell'officina ci sta il buon lavoratore. Pien di fatica e di sudor grondante, mentre il borghese lui disprezza il suo sudor. O del martello amo lo smartellar sull'incudine dell'officina, amo il gallo a canticchiar con la sua sveglia matutina. Quando penso che il mio ben tra le mie braccia s'addormenta, chino il mio capo sul suo sen, vorrei saperla sempre contenta. E nell'autunno cadon le foglie morte, le mie speranze con loro se ne van. Vorrei morire per non vedere più niente, ma poi mi pento, dico sarebbe una viltà. Amo dell'uva le vendemmie con i suoi canti d'allegria. Amo il vino spumeggiar in mezzo ai canti all'osteria. quando penso nel mio cuore alla mia piccola lontana, cade una lacrima dal cuore, triste risuona una campana. E quell'inverno cade la neve bianca e bianchi tetti i camin son gli affumar. Quel casolare anche di legna manca, tutto è silenzio fuori che marose al mare. Amo l'onda spumeggiare contro lo scoglio che l'aspetta, amo il fulmine, il tuonar nel fragor della tempesta. Quando son presso di te mi sento il cuore in armonia, sento d'amarti e non so che, sento d'amarti alla follia. Or son vent'anni in questa oscura cella, dimenticato da colei che amo ancora. Se ci ripenso io perdo la favella con il pensare a quel mio soave amore. Amo la notte, lo ascoltar il passo della sentinella, amo la luna salutar quando rischiare alla mia cella, quando penso all'avvenir, alla mia libertà perduta. Vorrei baciarla e poi morir mentre la dorme all'insaputa.
Vous êtes toujours dans Carapatage sur 89.4 FM. On vient d'écouter Les Quattro Stagioni de Caterina Bueno. Enfin, interprété par Caterina Bueno, et du coup c'est un vieux chant anarchiste italien qui date de la fin du 19e siècle, donc ça veut dire les quatre saisons, c'est un peu dans le thème, et ça parle d'un prisonnier qui voit les saisons passer depuis le fond de sa cellule dans laquelle il est enfermé, ça fait 20 ans qu'il est enfermé, et qui pense à sa liberté perdue. Et vous pouvez toujours nous contacter par téléphone jusqu'à la fin de l'émission au 01 43 71 89 40. Alors on était sur les prisons pendant l'été, et je voulais rajouter à ce que je disais avant la musique sur les aménagements sécuritaires dans certaines tôles qui font que c'est encore plus étouffant d'être enfermé. Il y avait aussi l'exemple de la MAF des Baumettes, où là c'est des fenêtres qui ont été installées, du coup c'est la MAF des Baumettes 2, c'est une prison moderne machin, et il y a les fenêtres qui ont été changées suite comme à Périgueux, suite à une mobilisation de riverains. Du coup c'était une association de 280 voisins qui s'étaient plaints de la présence des Baumettes sous leurs fenêtres et qui voulaient pas être vus et interpellés par les prisonnières à l'intérieur, et ce prétexte a été utilisé pour durcir les conditions. Donc avec des nouvelles fenêtres anti-bruit qui ont été posées, et en gros c'est des vitres qui s'ouvrent pas avec des caillebotis derrière, du coup c'est une plaque métallique percée de trous, plus encore les barreaux derrière le caillebotis, et du coup ça fait que c'est pas du tout possible d'aérer les cellules, et que voilà, il y a ni air ni bruit qui passe, ni lumière.
Et du coup, l'hiver 2020-2021, il y a eu un important mouvement à l'intérieur contre ces fenêtres et aussi contre des fouilles hyper hardcore et des viols pendant les fouilles avec des pénétrations vaginales à la main qui avaient lieu à ce moment-là. Et du coup, il y a des prisonnières dedans qui se sont bougées. Il y a eu une dizaine de cellules dans lesquelles les fenêtres ont été dégradées et il y avait des prisonnières qui avaient pris 4 à 5 jours de mitard et des retenues sur leur pécule, du coup sur leur compte interne dans la prison, des retenues de 330 euros. Et pendant leur lutte, elles avaient utilisé l'émission de radio Parloir Libre, qui est du coup une émission à Marseille qui sort des dédicaces pour et par les détenus. Et du coup, voilà, elles avaient utilisé cette émission pour faire sortir leurs paroles. Et là, l'info récente, c'est que le 9 septembre dernier, elles ont déposé une plainte contre ces fenêtres. Et du coup, va y avoir... Il y a la contrôleuse des lieux de privation de liberté qui a réagi en disant qu'effectivement, c'était pas bien, merci. Et donc, il y a un expert qui va calculer le volume d'air et le taux de renouvellement de l'air dans les cellules. Enfin, un truc complètement absurde. Genre, c'est pas dur de voir que, en fait, si tu peux pas aérer, ben, il n'y a pas assez d'air et ça se renouvelle pas. Mais bon, apparemment, il faut qu'un expert fasse des calculs. Et la réponse du ministère, c'est de la justice, c'est que de toute façon, il prévoit de rehausser les murs des Baumettes 2 pour qu'il n'y ait plus de vis-à-vis avec les voisins. Et que du coup, à partir de là, une fois qu'ils auront fait des murs encore plus hauts, peut-être ils pourront revoir cette mesure d'écailles bottis aux fenêtres. On enchaîne sur ce qui s'est passé cet été dans les prisons, avec malheureusement, c'est pas que l'été, mais des personnes qui sont décédées à l'intérieur des prisons françaises.
Ouais, bah là, en fait, je vais juste vous parler de Romain, qui est mort cet été. C'était une personne qui, entre autres, écrivait en volée, à l'envolée. Sa femme aussi... communiquait pas mal aussi avec l'envolée, et c'est une personne qui a participé à la révolte dans la prison de Valence qui avait eu lieu, je crois, en 2017, si je me trompe pas. Je suis pas exactement sûre de la date, mais bon. Et qui a été quand même assez lourdement condamnée pour ça, ainsi que d'autres personnes. Et l'administration pénitentiaire lui a quand même fait payer que ça. Il a eu vécu de nombreux transferts. Et donc, il est mort cet été. Sa femme s'est rendu compte, et lui aussi, qu'il allait pas bien pendant un UVF. Et en fait, les matrons ont carrément rechigné à appeler un médecin, une infirmière. Et du coup, lui ont dit, bah, c'est soit t'arrêtes ton UVF et tu vas... et peut-être tu pourras voir un médecin, mais plutôt tu le verras quand même lundi, c'est-à-dire dans 2 jours. Et donc, bah, plutôt, il a choisi de rester à l'UVF, quoi. Et c'est sa femme qui a appelé depuis l'extérieur les secours. Et voilà, il a fini par être hospitalisé et il est mort durant son hospitalisation. Voilà, c'est possible d'écouter son témoignage à sa femme, enfin, voilà. Le témoignage qu'on peut écouter à l'émission du 4 septembre de l'Envolée, où elle raconte vraiment comment, bah, en fait, quelque chose qu'on évoquait aussi, mais le fait que bah, les médecins les matons rechignent, enfin, plus que rechigner, en fait, retardent l'arrivée d'un personnel soignant, qui des fois, il n'y en a pas sur place, mais n'appellent aussi pas les secours. Et en fait, dans ces moments-là, chaque minute, elle compte. Et du coup, on imagine qu'il y a d'autres situations qui ont pu arriver comme ça cet été. En tout cas, on peut aussi dire que c'est arrivé là, en septembre, à la prison de Rennes, où il y a une personne, un co-détenu, qui a appelé pendant de nombreuses heures pour voilà, une personne qui était avec lui, qui était mal et qui, en fait, a fini par décéder. Et là, un mois plus tard, donc, c'est-à-dire il y a 2 jours, il y a une autre personne qui est décédée dans cette même prison. Voilà. C'est un petit peu de ce qui se passe bah, chaque jour en fait en prison, où la prison tue et l'accès aux soins est hyper compliqué, voire parfois impossible, quoi.
Et il y a aussi une personne qui est morte dans l'incendie de sa cellule à la maison d'arrêt de Caen en juillet. Mais du coup, au lieu de parler de ce genre de choses, ce qui a fait le buzz dans les médias cet été, c'est plutôt le Koh-Lantès. Et du coup, il y a Avril qui va nous en parler un peu, même si vous en avez déjà certainement entendu parler, parce que c'est la seule information qui est sortie dans les médias sur ce qui se passait en prison, globalement.
Et ouais, la seule chose qui défrait la chronique, c'est un tweet de Dupond-Moretti, notre actuel ministre de la Justice, qui a enflammé les réseaux sociaux, les médias et pas mal de politicards. Et ce tweet, il se scandalisait d'une émission sur YouTube dont tu as parlé, qui a depuis disparu d'Internet, Koh-Lantès en prison. Et ce qui énerve notre garde des Sceaux, c'est particulièrement des images de prisonniers qui font du karting dans la prison. Et pour cause, le karting, c'est ni de la sanction, ni de la réinsertion. Et du coup, par ces images, la prison, elle perdrait de son rôle de dissuasion. Et du coup, ça y est, c'est parti. Attention, les prisons deviennent des vrais hôtels 4 étoiles, des clubs med, avec toutes les activités qui permettent aux détenus de prendre du bon temps à l'ombre plutôt que de subir leur juste punition. Bon, alors, on va le dire vite fait parce qu'on le sait déjà, hein, la prison, c'est pas ça. Friends, c'est très loin de l'image qu'on en a fait. Et si les activités sont légalement obligatoire depuis 2009 dans un but annoncé de faciliter la réinsertion. Déjà, elles sont pas si présentes et on reparlera de l'idée de réinsertion plus tard, mais elles servent aussi et surtout quand elles sont là dans une optique de gestion carcérale et de pacification au sein de la prison. Et ces activités auxquelles il est possible de s'inscrire au sein de la pénitentiaire, c'est principalement des activités sportives. Il y a un certain nombre d'activités culturelles, des cours qui peuvent, des activités qui peuvent parfois s'accompagner de sorties hors de la prison. Et parfois s'avérer utile, comme pour prendre la tangente lors d'une sortie vidéo, vélo, pas vidéo, ou à l'opéra. Mais la plupart du temps, en vrai, elle se limite à une partie de foot, à un autre sport, ou au taf, à un taf de production où t'es payé une misère. Et pour pouvoir accéder à des activités, il faut être éligible. Ça veut dire avoir l'approbation du SPIP et du chef d'établissement. Et en particulier pour cette émission, la boîte de production, elle avait un contrat avec l'AP pour que les participants ils soient triés sur le volet et que les seuls qui puissent y participer soient des détenus qui étaient enfermés pour des peines pas très lourdes. Donc on est loin de l'image d'une prison dans laquelle les détenus ils passent leurs après-midi à faire du tir à la corde ou du karting. Mais à cette occasion, ce ministre de la Justice, il nous rappelle la fonction principale de la prison, qui est celle de punir. Et un peu plus récemment, s'est ajoutée à l'idée de la punition, celle de la réinsertion. C'est celle qu'ont mis en avant la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, d'autres personnalités politiques, ou même les gens qui avaient organisé cette émission, que ce serait un outil de réinsertion. Et du coup, cette idée de réinsertion, elle est aussi un problème en soi, enfin, politiquement, je sais pas comment dire. Bon, je le dis, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce truc-là, et moi, je le vois comme considérer qu'il y a des gens qui sont déviants moralement par rapport aux normes de cette société et que la prison, du coup, elle va jouer un rôle pour rectifier les individus et en les soumettant et en les contraignant à appliquer les normes morales que cette société elle, pose, notamment et principalement, toujours, en les faisant travailler en vrai. Et les auteurs de cette émission, Koh-Lantès, ils existent depuis 5 ans déjà avant d'avoir fait cette émission, ils en ont fait plusieurs. Et qui avait déjà donné lieu à d'autres vidéos sur YouTube qui mettaient notamment en jeu je vous le dis pour le spectacle, hein, des jeunes de banlieue face à des flics dans des combats de frites en mousse, avec encore une fois un beau message qui nous invite à nous rapprocher de nos bourreaux ou des types qui vont nous en foutre plein la tronche, des flics, des matons, et de l'autorité, quoi. Pour finir, il y a un prisonnier qui avait participé à cette émission qui disait ça, pour aussi rappeler c'est la réalité de la prison. Il disait, la prison c'est pas un jeu, c'est réel, on est enfermé 22h sur 24, on n'a pas plus de promenade parce qu'il fait chaud, on n'a pas plus de douche parce qu'il fait chaud, on a 3 douches par semaine, c'est pas le Club Med, c'est la prison. J'ai eu la chance avec d'autres détenus de participer à Koh-Lantès. On a pris une baffe quand on est retourné dans nos cellules, parce que c'était ça la réalité. Et je pense que ça résume assez bien le décalage.
Et sur le truc des matons, où effectivement, du coup, l'idée de ce programme, c'était de faire jouer en équipe les uns contre les autres des détenus et des matons. Pour aussi, outre le truc de réinsertion, j'ai l'impression qu'il y avait cette idée de, bah, comme tu disais, pour les flics dans les cités, quoi, de se passer un bon moment ensemble, même si on est chacun d'un côté, truc mûche. Et du coup, je me demandais s'il y avait eu des réactions dans les médias sur le fait que, quand même, il y a des gens qui sont payés au lieu de. Au lieu de travailler, ils sont en train de jouer au karting et ils sont payés pour le faire. Et personne ne s'est indigné que les matons soient payés à faire du karting quand même. Bref, non, c'était pour la blague. Je préfère qu'ils fassent du karting plutôt qu'ils tabassent des gens. Mais voilà, c'était pour la petite blague. Et si on a fini avec notre thématique, et avant de passer à la chronique, on va réécouter un petit morceau de musique.
On July the 2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell.
There's a riot going on.
The trouble started in cell block number 5 and spread like fire across the prison floor. I said, okay, boys, getting ready to run. Here come the warden with the Tommy gun. And said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface Jones said, it's too late to quit. Pass the dynamite, cause the fuse is lit. The 47th hour, the tear gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then.
On vient d'écouter Riot in Cell Block Number 9 de The Robins. Vous êtes toujours dans Carapatage. Et je rappelle que vous pouvez nous écrire à Carapatage au 4 Villa Stendhal, Stendhal, 75020 Paris, ou encore par mail à carapatage@riseup.net. Et tout de suite, on passe à la chronique d'Henri sur la criminalisation des fausses couches aux États-Unis.
Oui, du coup, pour finir cette émission, je vais vous parler dans cette chronique féministe et énervée de la criminalisation des fausses couches aux États-Unis à l'ère des lois anti-avortement. Donc cette semaine, j'ai lu un article de The Marshall Project, une ONG qui enquête sur la justice pénale aux États-Unis. Et l'enquête, elle s'appelle « Elles ont perdu leur grossesse, puis des procureurs les ont envoyées en prison ». Le contexte de tout ça, c'est que le 24 juin 2022 a eu lieu la révocation de l'arrêt de la Cour suprême Roe versus Wade, selon lequel l'accès à l'avortement est un droit constitutionnel. Et donc, à partir de là, les différents États du pays sont désormais libres de légiférer comme ils le veulent sur l'avortement, ce qui fait que les plus réactionnaires, conservateurs et chrétiens fondamentalistes d'entre eux l'interdisent. C'est-à-dire, en fait, dans les faits que 26 États avaient prévu de passer des lois, 26 États sur les 51 que comptent les États-Unis. Et pour certains d'entre eux, l'avortement devient interdit, sans exception en cas de viol, inceste ou raison de santé. Pour vous donner un exemple, en Alabama, un médecin qui pratique un avortement encourt jusqu'à 99 ans de prison. Certains de ces 26 États cherchent aussi à s'attaquer aux États dits sanctuaires où les femmes qui ont les moyens peuvent se rendre pour avorter, comme c'est le cas en Californie ou dans l'État de New York où l'avortement ne connaît que très peu de restrictions. Donc comme on le voit pour le moment, la stratégie du mouvement anti-avortement, c'est de chercher à criminaliser le personnel médical ou les autres personnes qui dispensent des avortements, mais rien n'est sûr qu'il ne s'attaquera pas dans les prochaines années aux personnes enceintes directement, en mettant toujours en avant le droit au fœtus, les droits du fœtus. C'est comme ça qu'on en arrive à l'enquête que je vais vous résumer et qui fait état des condamnations d'une vingtaine de femmes suite à des fausses couches ou à la naissance d'un enfant mort-né. C'est des situations où la justice condamne des femmes à des peines de prison jusqu'à 12 ans, jusqu'à 12 ans ferme ou de sursis avec mise à l'épreuve pour avoir été testée positive à différents types de drogues, la plupart du temps la méthamphétamine, suite à une fausse couche. Et alors même qu'il n'est pas scientifiquement établi que l'usage des drogues met en danger le fœtus et que vraiment il peut y avoir plusieurs raisons à une fausse couche et que c'est difficile à déterminer. Même dans la plupart des cas, en fait, ces femmes sont condamnées alors même que des autopsies sur le fœtus ou le corps de l'enfant mort-né ont montré que c'était pas la drogue qui avait causé le décès. Dans ce cas, les juges considèrent les fœtus, parfois de quelques semaines seulement, comme des personnes et prononcent des condamnations, par exemple pour homicide involontaire ou violence envers des enfants. Concernant les femmes qui ont été condamnées, c'est souvent suite au fait que leurs avocats commis d'office leur aient conseillé de plaider coupable dans l'objectif de réduire leur peine. On ne va pas rentrer dans les détails du système judiciaire états-unien, mais on peut quand même dire que ce sont de mauvais conseils. Pas merci les baveux. Depuis 1999, plus de 50 femmes ont ainsi été poursuivies. Et l'article prévoit que ces cas sont amenés à se multiplier suite à la récente décision de la Cour suprême de ne plus faire de l'avortement un droit constitutionnel. Affaire à suivre, donc, de ce qui va se passer aux États-Unis suite à ça. Je finirai cette chronique en parlant rapidement de la France, puisque aujourd'hui le Sénat a refusé d'inscrire l'IVG, le droit à l'IVG dans la Constitution. Alors c'est du droit, c'est cette institution, le Sénat, qui est très loin de nous, mais ça nous envoie quand même un signal très mauvais pour la situation en France aussi.
Merci Henri, on arrive à la fin de cette émission. Je rappelle que vous pourrez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes sur notre blog carapatage.noblogs.org.
Le prochain direct, c'est dans 2 semaines, le 2 novembre, et on aura des invités pour nous parler d'un livre qui vient de sortir chez Niette Édition, qui s'appelle « Un peu de bon sens, que diable ?» et qui parle de, des 5 sens quand on est enfermé. On va écouter Sosa de Nera, et bonne soirée à tous et à toutes. Courage, force, détermination pour celles et ceux à l'intérieur. Et à la prochaine.
Bonne soirée.
Au revoir.
C'est l'heure de faire une pause, de penser à autre chose, de mes cours revers.
Carapatage, une émission contre toutes les cages.
De mes cours revers d'eau, c'est l'été, tout est rose. Chacun fait son chemin, ligne droite ou cabossé. Dans nos têtes, ce même refrain. Qu'est-ce que tu fais à la rentrée? Mais qui est-ce qui décide? Cet avenir qui est le nôtre, que j'ai chaud réussi seul. Je veux que sur moi tombe de la faute. Comment vais-je faire mes sous? Comment quitter le sou? Que faire quand tout est flou?
Une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur.
En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.